RFI Midi.
14h25 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
À la une, la situation au Proche-Orient, où on le répète, il règne un calme précaire depuis ce matin.
Oui, dans les kiosques britanniques notamment, The Independent affiche les espoirs de paix à Gaza. Un cessez-le-feu négocié par l'Égypte est entré en vigueur hier soir à 23h30 heure locale entre Israël et le mouvement du djihad islamique, explique également The Guardian. Au troisième jour de ce que le journal Al-Ayam, basé à Ramallah, qualifie d'agression israélienne contre la bande de Gaza. Le journal palestinien parle aussi des efforts acharnés et intenses de l'Égypte dans les négociations. Il observe que les échanges de tirs s'étaient poursuivis de manière intensive jusqu'aux derniers instants avant la trêve. Après, en tout cas, des rassemblements massifs ont émergé de plusieurs endroits de la bande de Gaza et se sont dirigés vers les maisons des martyrs, écrit Al-Ayam. Mais situation fragile dans l'ensemble. Al-Quds, un autre média palestinien, relaie quant à lui les mots du secrétaire général du djihad islamique. Hier soir, Ziad al-Narallah déclarait « La résistance a posé ses conditions. Au moindre manquement, nous reprendrons les combats. »
Situation précaire et on le comprend également à la lecture des journaux israéliens.
À commencer par le Jérusalem Post qui rapporte que des roquettes ont été tirées en direction du sud d'Israël quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et le journal publie également la mise en garde des autorités israéliennes. Si le cessez-le-feu est violé, l'État d'Israël se réserve le droit de répondre avec force. Ce matin, la situation revenait peu à peu à la normale dans la zone près de Gaza, explique le Times of Israel. Mais on comprend que les prochains temps vont être cruciaux car la libération de membres du djihad islamique détenus par Israël fait partie des points de négociation. Et le site du Times of Israel affiche justement en une ce midi que les demandes de libération ont été refusées. L'État hébreu ne prévoit visiblement pas de libérer les prisonniers, peut-on lire.
Sébastien, en Ukraine, nouveau risque de dérapage nucléaire.
À lire en une du Süddeutsche Zeitung en Allemagne, après l'attaque sur le site du réacteur de Zaporijjia, la plus grande centrale d'Europe touchée à deux reprises, l'Agence internationale de l'énergie atomique y voit le risque bien réel d'une catastrophe nucléaire. Les gouvernements de Moscou et de Kiev s'accusent mutuellement, relate le Süddeutsche Zeitung, qui explique également en quoi cette situation est très dangereuse. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est censé se faire une idée de la situation. Mais cela a jusqu'à présent été impossible, poursuit le Süddeutsche Zeitung. Pourtant, Raphaël Grossi a mis en garde très tôt contre les dangers nucléaires, lit-on. Le journal allemand livre le portrait du patron de l'AIEA. Il le présente comme un diplomate nucléaire qui n'a pas peur de prendre des risques.
Dans les journaux également, Sébastien, hier, l'investiture du nouveau président colombien.
Et la presse espagnole y revient notamment aujourd'hui en une. El País estime que la gauche ouvre une voie inédite avec Gustavo Petro en pointe. Après 2 siècles de vie en tant qu'État indépendant, souligne le journal, la gauche occupe enfin le pouvoir dans un pays aussi présidentiel que la Colombie. Et elle le fait avec un ancien guérillero accompagné de Francia Márquez comme vice-présidente, une femme afro née dans la pauvreté, dans une zone historiquement marginalisée. Et c'est un vaste programme de réformes qu'a promis le nouveau président dans son discours inaugural, observe El País. El Periódico de España met quant à lui en avant la première mesure de Gustavo Petro. Le nouveau président a ordonné que l'épée de Simón Bolívar soit amenée sur la Plaza de Bolívar à Bogota. Cette épée, ayant appartenu au célèbre leader indépendantiste latino-américain, est une pièce historique qui a une grande valeur symbolique pour le président, explique le quotidien espagnol, car c'est celle volée par la guérilla M19 comme premier acte d'insurrection, guérilla à laquelle Petro lui-même appartenait. Et lorsque le groupe est parvenu à un accord de paix avec le gouvernement, l'épée a donc été rendue. Et le prédécesseur de Gustavo Petro, Ivan Duque, avait lui refusé de la transférer sur cette place. Une première mesure très symbolique donc.
Enfin à lire dans la presse indienne, Sébastien, un raté dans l'espace.
Ou deux ratés pour le prix d'un, pourrait-on presque dire. L'organisation indienne de recherche spatiale a effectué hier le premier vol de son petit véhicule de lancement de satellite Relatzi Hindu, le SSLV-D1, le dernier né des lanceurs indiens. Il transportait 2 satellites, mais il n'a pas réussi à les placer sur l'orbite appropriée. Il les a placés sur une orbite de forme elliptique au lieu d'une orbite de forme circulaire. Résultat, les satellites sont tout simplement inutilisables, explique également le journal The Pioneer. Mais l'organisation indienne de recherche spatiale a affirmé qu'elle reviendra après avoir analysé les données et corrigé la défaillance. The Hindu rappelle pour sa part que ce n'est pas le premier raté de l'agence spatiale indienne, mais que cela était rentré dans l'ordre par le passé.